Vivre FM, podcast.
Ah oui, ce sont les championnats de France Open d'athlétisme handisport organisés par la Fédération française handisport que nous vivons jusqu'à 16h. Et nous avons des résultats qui arrivent. Et Théophile Mercier est là pour nous en parler. Théophile.
Oui, alors c'est tout chaud, donc en 400 mètres fauteuil féminin, je vous annonce la victoire de Christelle Alquier devant Marie-Thérèse Bidili et Léa Maza. Toujours en 400 mètres fauteuil, mais cette fois chez les garçons. Deux finales se sont disputées. Alors pour vous dire que Jean-Philippe Lecuic a terminé premier devant Jean-Marc Tunuleux. Et en deux, la deuxième demi-finale, c'est la victoire facile hein, de Julien Cazoli devant devant Alex Adélaïde, finale remportée en 49 secondes et 61 centièmes. Alors, on suit toujours en fil rouge le concours de la longueur. Jean-Baptiste Alaise a son troisième essai en était à 5,79 m, tout en sachant que son premier essai était à 6,17 m. Dans la suite du programme, on suivra dans quelques instants les 400 mètres féminins et masculins, mais cette fois debout. Ça sera aux alentours de 15h30 et 15h45.
Très bien, ben vous reviendrez nous en parler en temps utile évidemment. On rappelle que tous ces résultats obtenus par ces athlètes vont compter pour peut-être leur qualification future aux Jeux Paralympiques de Rio.
Et ce sera le cas normalement de la longueur. C'est pour ça qu'on suivra notamment Jean-Baptiste Alaise et les autres. On croise les doigts pour eux et on espère qu'ils se qualifieront ce soir pour Rio.
Absolument, on en reparle dans un instant parce que les invités succèdent sur l'antenne de Vivre FM, Marion Guichawa, et nous en avons un nouveau. Vincent Lockman est avec nous également.
Oui, effectivement, mais alors je sais pas bien qui est avec nous.
C'est Gérard Masson.
Vraiment, elle est extrêmement gentille. C'est Gérard Masson. Moi, je vais me le présenter comme ça. On sera tranquille.
J'aime bien les rares fois où on me reconnaît et que moi, je reconnais pas les gens.
Elle est extraordinaire. C'est dommage qu'on soit à la radio parce qu'elle est tellement jolie que j'essaierai de la décrire, mais je vais pas le faire. En tous les cas, Gérard Masson, président de la Fédération Handisport.
Merci Gérard d'être avec nous pour ce petit moment ici à l'antenne. C'est formidable ce qui se passe tous les ans autour de cet Open de Charletti. On voit, on a vu passer tout à l'heure une classe et il y avait une classe d'un collège et il y avait un gamin qui était handicapé dans cette classe et c'était lui qui, pour une fois, menait toute son équipe. Il y a une belle mixité, il y a un beau mélange ici dans les tribunes de ce stade de Charletti et dans ce village où on est installé là.
Ce qui est merveilleux dans ces journées, c'est que on change la donne sur toute une classe. Au lieu que ça soit le petit personne handicapée ou les petites personnes, parce que parfois il y en a plusieurs dans la classe, qui soient derrière, c'est eux qui sont devant. Et cette fois, ils ont la joie, le plaisir, l'honneur de présenter, de raconter, de partager une belle histoire. Et je pense que ce soir, quand ils vont rentrer, ils vont avoir tous dans les yeux leur copain. C'est plus le même, parce que ce copain, il a couru sur la stade, même s'il n'était pas lui. Mais la victoire de Marie-Amélie, c'est la victoire de cette jeune fille qui était dans la classe, qui a encore beaucoup, beaucoup de temps avant d'être une athlète. Mais ils vont tout faire pour qu'elle devienne une athlète. Et c'est là où cette mixité est merveilleuse, c'est que ils vont la pousser, ils vont se pousser entre eux pour partager ensemble ce résultat.
Et Gérard Masson, derrière nous, on est au pied du comité olympique et sportif français. Juste derrière nous, il y a écrit « La force d'un rêve, Paris 2024 ». L'idée, c'est de vendre du rêve ici aujourd'hui à tous ces jeunes en situation de handicap.
Aujourd'hui, c'est surtout de leur faire voir la réalité, parce que le rêve, c'est merveilleux, et ils rêvent très, très souvent. Et quelquefois, pour l'instant, ils n'ont pas encore, c'est rare le môme qui rêve d'être Claude Issora ou ils rêvent d'être un athlète valide. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'ils rêvent d'être Marie-Amélie Le Fur, si c'est une fille. Ils rêvent d'être demain matin un athlète handicapé, parce que je crois que c'est ça le plus beau message, c'est qu'un jour ou l'autre, ils se compareront à un athlète handicapé. Et je pense que, à travers votre radio, à travers les médias, je pense qu'on va y arriver. Il faut encore un petit peu de temps. Et quand on voit ce que, grâce à l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, grâce, j'allais dire, à la Fédération Française d'Handisport, grâce à tous nos partenaires, ce que les messages qui sont passés vont être des messages gagnants de toute façon.
C'est drôle, on avait tout à l'heure EDF, une maison que vous connaissez bien, Gérard Masson. Et quand ils ont commencé à soutenir la Fédération Handisport, elle n'avait pas la notoriété. Les Jeux Paralympiques étaient confidentiels et on se disait mais ils ont fait un pari à ce moment-là ces partenaires, ces sponsors et aujourd'hui ils récoltent peut-être le fruit de cet engagement-là parce qu'il y a 4 ou 5 ans c'était pas du tout évident et alors il y a 10 ans, n'en parlons pas et ça fait très longtemps que par exemple EDF, maison que vous connaissez bien, vous suit.
En 92 lorsqu'ils sont venus aux Jeux à Barcelone le responsable de la mission handicap, il s'appelait Didier Young, il lui a apporté des t-shirts et il n'y avait pas de logo EDF dessus, c'était des t-shirts blancs parce que fallait pas qu'on voit le logo EDF, ça y est, aucun logo. À la même époque, il y avait BMW qui nous donnait un petit peu d'argent, il disait surtout vous donnez pas notre nom, hein, parce qu'avec des voitures, il y a des accidents. Donc nos partenaires, c'était ceux-là, c'était ceux qui, ben, malheureusement, mais ça c'est à la même époque où votre serviteur, il était salarié dans une entreprise et puis il gagnait le SMIC moins 20% parce qu'il était handicapé.
Ça voulait
donc,
dire, Gérard,
tout ce monde-là a changé, oui.
Ça voulait dire, Gérard, que c'est une question d'image. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, EDF ou BMW ne voulaient pas que leur image soit, j'allais dire, parasitée par
on
le fait.
On ne peut pas associer.
Ouais. Ça.
L'image a changé parce que, là aussi, j'ai envie de dire que l'ensemble et je voudrais remercier les grosses entreprises, mais je voudrais aussi remercier les syndicats. Je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont dit un jour, cette population, c'est la population de la maison EDF, c'est-à-dire que ce sont nos clients. Nos clients, ils sont aussi handicapés. Et je pense que c'était pas leur faire injure que de dire, ils font partie de la maison.
Il y a beaucoup de manifestations autour du handicap qu'on suit avec l'antenne de Vivre FM. C'est rare qu'on voit une telle mixité comme celle-là aujourd'hui. Autant d'enfants, il y a encore une classe avec écrit « Vive la France » derrière nous. Allez, la France, c'est rare qu'on voit une telle mixité. Est-ce que finalement, il ne faut pas sortir de ces catégories dans lesquelles on met les personnes handicapées dans un coin?
Je pense qu'Handisport a ce côté quand même assez extraordinaire. C'est à la fois d'être... parler du handicap et du sport, c'est quand même une contradiction parce que le sport n'est pas forcément l'image négative et le handicap est une image négative. Et je pense que pour l'ensemble de la population aujourd'hui, je crois qu'on est souvent très colère en disant il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de choses, ça a changé. Je pense que pour ceux et celles qui auront la chance d'être un peu patients, Rio va leur apporter plus de 100 heures d'émission.
À la télé en direct, hein, sur France Télévision, sur France 2.
Donc j'ai envie de dire que pour ceux et celles qui ont eu Londres avec une heure et demie de direct, ça va quand même changer. Non, mais je crois qu'il faut, soyons positifs, j'ai envie de dire, j'en ai marre d'entendre toujours des choses négatives dans le monde du handicap aujourd'hui et dans le monde du sport en particulier. Il y a plein de belles choses qui se passent et il y a plein de belles histoires.
Il y a un mouvement qui est une tendance profonde, hein, qui est l'inclusion des personnes handicapées à l'école ordinaire, dans l'entreprise ordinaire. On avait tout à l'heure deux jeunes déficients visuels qui courent sans guide, qui s'entraînent avec des valides. Est-ce que demain, leur avenir, c'est pas d'être à la Fédération française d'athlétisme?
Alors, ça peut être d'être à la Fédération française d'athlétisme, ça sera certainement ça. Mais peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans.
Comment vous accompagnez cette évolution-là?
Nous, on l'accompagne mal parce que c'est pas qu'on l'accompagne mal. Le mot, il est triché, c'est qu'on est prudent. On veut bien que ça se fasse et on va tout faire pour que ça se fasse parce que ça se fera.
Ça se fera, la tendance est lourde et profonde.
Il faut aller doucement parce qu'il ne faut pas que demain matin, les plus grands handicapés soient pénalisés par cette volonté qu'il y a le ministère, cette volonté qu'ont un certain nombre de dire les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en même temps. Si vous êtes à la Fédération d'athlétisme, vous aurez plus de médailles. Si, tout ça, il faut être très, très vigilant parce que les plus grands handicapés, demain matin, quelle est la fédération qui va prendre mes tétraplégiques? Est-ce que la fédération de rugby va prendre mes quadriplégiques pour jouer au rugby? Attention, soyez vigilants.
Je vous ai entendu devant vos troupes, il n'y a pas si longtemps que ça, dire que si la société va vers ça, il faut qu'on y aille aussi. C'est-à-dire que il faudrait pas à l'inverse que vous donniez le sentiment, parce que on pourrait entendre ça quelquefois, que finalement vous voulez garder les gens chez vous, les enfermer dans un ghetto.
On n'est pas des Gaulois et le petit village dans le nord de la Bretagne, là-haut, on ne l'est pas. C'est pas Astérix, mais je veux dire qu'on a une trop longue histoire aujourd'hui, même si elle n'est pas très très longue, mais on a une 50 ans d'histoire où mes prédécesseurs, où tous ceux et toutes celles qui ont accompagné cette belle histoire veulent être vigilants. On veut bien qu'ils le fassent et au contraire. Mais pour nous, l'inclusion, c'est pas la disparition. C'est-à-dire que demain matin, c'est pas parce que un petit môme handicapé mental va être performant en athlétisme qu'il va plus être handicapé mental. Quand il va monter dans l'avion, si à la sixième marche il s'arrête, là il faudra aller le chercher et lui expliquer pendant 10 minutes que pour monter dans l'avion, alors qu'il aura fait un 100 mètres en 10 ou 11 secondes, le handicap reste quand même. Tu sais, moi en fauteuil roulant, je resterai encore en fauteuil roulant pendant un bon petit moment. J'ai l'impression, parce que ça fait déjà 50 ans que ça dure, donc à mon avis ça va encore durer. Et la marche qui va m'emmerder, ou les deux marches qui vont m'emmerder seront encore là.
Ça veut dire que la compétence, l'expertise de la Fédération Handisport, elle doit aujourd'hui... se dispatcher, aller au devant des clubs ordinaires, aller au devant des écoles ordinaires, comme on le voit aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, la fédération handisport, c'est 400 clubs handisport, c'est 800 sections chez les valides. Donc c'est un truc irréversible. Mais par contre, faut qu'on reste encore, j'ai envie de dire, avec une certaine expertise et un certain regard. Il faut pas, et je le dis et je le répète, peut-être que je n'insiste trop là-dessus, mais il faut pas que les plus grands handicapés se trouvent à un moment donné ghettoisés, mis dans un coin et qu'on dise ça, on s'y intéresse plus.
On en parlait avec Emmanuel Asman tout à l'heure. Est-ce que c'est pas le risque de la médiatisation? C'est-à-dire qu'on voit d'abord les champions qui peut-être n'ont pas les plus lourds handicaps dans les médias.
C'est le risque, comme tout le niveau, le haut niveau dans le sport. Aujourd'hui, le Comité international olympique et les Jeux olympiques, c'est mettre en valeur les plus beaux athlètes, les plus grands athlètes. Il y a ce risque-là absolument, et c'est pour ça qu'on dit essayez d'être prêt dans l'e-sport, essayons de continuer à travailler pour faire en sorte que les plus grands handicapés puissent être présents, ou en créant d'autres disciplines. Le rugby fauteuil aujourd'hui en est la démonstration, où c'est des grands handicapés. Alors peut-être
qu'il faut... très spectaculaire,
mais gardons quand même à un moment donné un petit peu de vigilance et soyons prudents.
Eh ben merci Gérard Masson. Vous voyez, je retiens votre nom quand je veux.
Voilà, absolument.
Vous êtes venu faire un tour du côté
j'ai
de chez
retenu,
nous.
Donc, c'est un bon début. Et j'ai retenu que vous n'êtes pas un Gaulois, donc c'est pas à vous qu'on va chanter, c'est la hutte finale.
Merci beaucoup vous et merci à Vivre FM.
Merci à vous. Une pause musicale et puis évidemment on revient juste après pour continuer de parler de ces championnats de France. Handisport, championnat de France Open, ça veut dire qu'il y a des étrangers également qui courent, il y a 70 athlètes étrangers. On reparle de tout ça après une pause musicale sur Vivre FM.
En direct du stade Charletti, de 11h à 16h, Vivre FM se met au sport.
Ce sont les championnats de France Open d'athlétisme handisport que nous vous proposons jusqu'à 16h en direct du stade Charletti, où nous attend un nouvel invité, Marion Guichaoua.
Oui, on est avec Abedine Fabian qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour Abedine. Bonjour.
Alors, donc, vous m'avez expliqué que vous êtes président du club Upsilon à Châtenay-Malabry, qui est donc d'abord un club de foot fauteuil et de boccia un petit peu aussi.
Oui, normalement, on va démarrer la boccia à partir de l'année prochaine. Nous sommes notre activité principale, effectivement, c'est le football en fauteuil roulant électrique. Donc, c'est un sport qui cible les personnes atteintes de grands handicaps, les grands dépendants, et qui utilisent un fauteuil électrique au quotidien. Et donc, si vous voulez, ce sport est extrêmement important parce que il permet à ces personnes de dire que même si on a un handicap qui vous contraint physiquement beaucoup, eh bien, c'est possible d'être dans la performance, d'être dans l'action et d'être finalement acteur au sein de sa propre vie.
On parle beaucoup de ces sports, ces handisports du genre foot en fauteuil, basket en fauteuil, mais on ne sait pas combien il y a de licenciés. Par là même, est-ce que c'est pas compliqué justement de faire des matchs? D'abord, est-ce que les règles sont les mêmes? Et est-ce qu'il y a 11 joueurs de chaque côté, j'imagine pas? Enfin, dites-nous un petit peu.
Alors, le foot fauteuil, c'est un sport, comme je vous le disais, qui concerne les personnes qui utilisent un fauteuil électrique au quotidien. C'est un sport qui se joue sur le terrain à 4 contre 4, donc un gardien de but, 3 joueurs de champ, sur un terrain de basket. Ça se joue en salle, puisque l'outil qu'on utilise, c'est le fauteuil électrique. Et donc, ce serait un peu compliqué de jouer en extérieur. C'est un sport qui compte aujourd'hui, suivant les années, c'est assez variable, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent, des gens qui arrêtent. Donc entre 900 et 1100 licenciés chaque année pour le football en fauteuil. Et puis vous imaginez bien que quand on parle de grands dépendants, eh bien il faut des moyens financiers importants, puisque un fauteuil de compétition coûte à peu près 11 000 euros, mais également des moyens humains importants pour encadrer ce sport lors des déplacements. Donc effectivement, c'est pas forcément évident de pratiquer, mais nous on fait en sorte. En tout cas, à Upsilon, à Châtenay-Malabry, on fait en sorte de mettre à disposition de nos adhérents ou de ceux qui souhaitent pratiquer le football, eh bien, de mettre à leur disposition les personnes, les moyens humains et financiers à la disposition de leur envie.
Donc, il y a des équipes qui sont constituées. Est-ce qu'on peut parler de, je ne sais pas, comme, je ne sais pas, dans le football professionnel ou même amateur, on parle de ligue ou de division. Là aussi, il y a un certain nombre d'équipes. Ça fait qu'il y a, je sais pas, il y a plusieurs divisions, comment ça se passe? Plusieurs niveaux?
Oui, aujourd'hui, dans le championnat de France, en France, sur tout le territoire, il y a à peu près 120 équipes pour à peu près 80 clubs, parce qu'il y a des clubs qui ont plusieurs équipes. Ces équipes sont réparties sur 4 niveaux de division. Vous avez les débutants, qui est la division nationale, répartie en régions, et puis ensuite, vous avez la troisième, la deuxième et la première division.
Première division.
Voilà, il y a une fédération internationale, donc les premières équipes de la D1 jouent la Coupe d'Europe.
Donc tout ça est très structuré.
Très structuré, effectivement. Nous, de par la nature du public que l'on encadre, nous avons besoin d'être assez structurés dans les activités que nous mettons en place. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes certainement un des sports qui a eu besoin d'être très structuré à la base, parce que on peut pas partir avec 10 personnes grands dépendants un petit peu comme on part à la
base. Oui, bien sûr, c'est une grosse aventure pour le coup, comme vous le disiez, faut des moyens financiers, des moyens humains pour encadrer tout ça.
Oui, il faut des moyens humains. Donc au départ, c'était une activité qui s'est développée beaucoup dans les centres de rééducation, puisque c'était les endroits où les personnes dites grands dépendants vivaient le plus. Et puis au fur et à mesure du temps, des gens qui quittaient ces centres, qui n'étaient plus dans ces centres de rééducation, se retrouvaient sans équipe et sans la possibilité de continuer à faire du sport. Et c'est la raison pour laquelle, il y a maintenant 11 ans, nous avons décidé de créer le club de Châtenay-Malabry, qui est un club autonome, qui ne dépend d'aucun centre, et dans lequel peuvent s'inscrire des gens de toute la région. Et nous avons des gens qui viennent de tous les départements de la région. Nous avons aujourd'hui une vingtaine de joueurs, et à peu près autant, de même plus, une trentaine de bénévoles qui se relayent pour permettre à ces joueurs de pratiquer leur passion.
Et vous aidez donc ces joueurs dans le cadre de ce club de Châtenay-Malabry, vous aidez des joueurs qui ne savaient pas au départ l'existence de ces possibilités de jouer au foot fauteuil. Vous les aidez justement à acquérir un savoir-faire en ce domaine?
Alors bien sûr, nous les aidons sur deux plans. Nous, le but de notre association s'articule sur deux axes. Le premier, bien sûr, c'est permettre à des personnes en situation de grand handicap de pratiquer du sport. Nous avons une équipe qui joue en élite, en première division, et qui assure la visibilité de notre association. Et le deuxième axe autour duquel s'articule notre projet, qui est le plus important, c'est la mise en place d'éléments de projection sociale auprès des personnes atteintes de grand handicap très jeunes, enfants ou adolescents.
Ça veut dire valoriser effectivement ces personnes.
Nous les valorisons.
Faire en sorte qu'elles ne soient pas, j'allais dire, oubliées, qu'elles ne soient pas ghettoisées, coincées dans leur handicap.
Et sensibiliser le public aussi, j'imagine. Et c'est même ces personnes qui, peut-être, comme un handicap lourd, on n'ose pas aller vers le sport.
Exactement, on s'auto-censure un petit peu. Et bien au-delà du sport, nous utilisons le sport comme un outil de développement social et de développement humain, parce que tout ce qu'elles vont produire dans le sport, elles vont le reproduire dans leur vie. Alors nous, lorsqu'on a démarré, nous n'avions pas de véhicule pour le transport, nous n'organisions pas de ramassage pour nos athlètes. Eh bien, ce que l'on a fait, c'est que nous avons appris à certains de nos athlètes, à certains de nos sportifs, notamment à prendre les transports en commun. Donc, nous avons fait des campagnes d'accompagnement pendant 10 jours, 15 jours, 2 mois, pour qu'ils se familiarisent avec l'outil des transports en commun. Et c'est un outil qui leur a servi ensuite dans la vie pour aller faire des courses, rencontrer des amis, aller au cinéma et se socialiser un petit peu plus.
Ça va beaucoup plus loin que le sport.
Ça va beaucoup plus loin, effectivement, que le sport.
Mais ça peut être le contraire aussi. Je veux dire, le fait aussi de faire en sorte que ces personnes handicapées soient plus autonomes, qui les incite justement à gagner des clubs comme le vôtre.
Bien sûr, c'est la mise en place, ce qu'on appelle, d'un cercle vertueux. Et donc, on essaye de faire en sorte que le sport leur procure de l'autonomie, que cette autonomie leur procure notamment la possibilité d'être des citoyens plus accomplis.
Eh bien, merci beaucoup, Abedine Sébiane, d'être passé nous voir.
Toujours un plaisir.
Peut-être donc, si les gens cherchent, si les gens qui nous écoutent s'intéressent au football, ils peuvent aller voir sur le site internet peut-être du club.
Alors, nous avons une page Facebook, le site est en cours de construction, donc upsilon-châtenay-malabry. Et on est sur Facebook, c'est une page ouverte, vous pouvez venir consulter nos activités.
Et on pourra vous liker, évidemment.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci,
au revoir.
Merci. Une pause musicale et puis nous revenons évidemment ensuite, hein, parce que ça n'est pas terminé. Les championnats de France Open d'athlétisme handisport se poursuivent. On en parlera après une pause musicale sur Vivre FM.
En direct du stade Charletti, de 11h à 16h, Vivre FM se met au sport.
Ce sont les championnats de France Open d'athlétisme handisport organisés par la Fédération Française Handisport que nous suivons en ce moment en direct du stade Charletti. Et Marion Guichaoua, nous avons un autre invité.
Et oui, donc c'est Jean-Paul Moreau qui vient d'arriver avec nous. Vous êtes président de la FFH, bonjour.
Bonjour Jean-Paul. N'allez pas trop vite s'il vous plaît. Vice-président délégué de la Fédération Française Handisport.
Président, ça viendra plus tard.
Vous voyez déjà au sommet,
peut-être,
vous voyez.
Mais président de l'organisation, je veux bien. Parce que je suis, effectivement.
Ah, bon, je me suis trompée.
Pas de problème, non.
Alors donc, voilà, on est sur l'événement depuis ce matin. Là, on a vu déjà pas mal de compétitions. Vous êtes content de cette journée?
Écoutez, est-ce que vous avez pris plaisir à voir les compétitions?
Malheureusement, on n'était pas toujours sur le coup, mais on a des journalistes, effectivement, qui nous rendent compte de la situation. Et visiblement, eux ont pris un véritable plaisir à voir ces athlètes.
Alors ça, c'est très bien. Alors moi, effectivement, je vous confirme que moi aussi, j'ai pris certains plaisirs à, a assisté à un grand nombre de compétitions, mais il y avait plein de choses en parallèle. Le village sportif, il y avait le village citoyen. Et là, si vous voulez, on a eu allez, entre 7000 et puis 8000 membres qui sont passés, sans compter les centres spécialisés qui sont passés aussi nous rencontrer. Et on a eu une très belle compétition parce qu'il y a déjà 2 ou 3 records du monde qui sont tombés. Et ça, ça me paraît hyper important. Donc, on a cette chance, c'est que on a un plateau technique qui est hyper motivé, hyper sportif, hyper qualifié. Et je pense que là, tout le public est venu nous rendre visite. Et ça, c'était le bonheur parfait.
Alors, les records du monde, c'est bien, hein, effectivement, parce que ça fait parler. Ça fait parler du monde du handicap, du monde du handisport. Et puis tous ces enfants, vous le disiez, hein, j'ai cru vous entendre parler de 8000 gamins qui sont passés. Et c'est bien parce que là aussi, ce sont d'excellents porte-voix, j'allais dire.
Absolument, c'est des porte-voix. Et en plus, je suis sûr qu'ils vont partir avec notre regard sur le handicap. Parce qu'ils ont pu se mettre en situation de handicap sur le village sportif. Et donc là, ils sont venus. Et quand je les vois sortir avec le sourire, avec la banane, dire moi, j'ai une double banane parce que j'ai ce plaisir-là, ce double plaisir de la compétition, mais surtout de voir des jeunes satisfaits. Et je dois dire, cher ami, que je dois remercier quand même l'UNSS et puis les 3 académies Créteil, Versailles et Paris qui ont joué le jeu de nous amener, si vous voulez, ces 7000 à 8000 jeunes. Et ça, je crois que je vais assez les remercier.
On l'a déjà évoqué plus tôt, justement, il y a à la fois ces jeunes qui sont valides et qui découvrent, on va dire, ce que c'est finalement d'être pendant un petit moment dans la peau d'une personne en situation de handicap, puis aussi des jeunes qui viennent avec leur classe, qui eux ont un handicap, d'habitude sont peut-être pas si bien intégrés que ça, et là, c'est eux qui montrent à leurs camarades comment ça se passe, donc ça renverse finalement totalement la situation habituelle.
Absolument, c'est un renversement, mais ce renversement, il faut le faire avec amour, tendresse, échange, écoute, et tout le monde sera porteur d'un message positif pour l'extérieur. Et quand on sortira de Charletti, la mecque de l'athlétisme, je me fais un plaisir de le dire, parce que quand je vois les jeunes, quand ils rentrent dans ce stade mythique de l'athlétisme, je veux dire qu'ils sont très heureux. Mais même pour nos athlètes, qui étaient les jeunes tout à l'heure à 10h, quand nos jeunes athlètes qui ont concouru, ils étaient super heureux. Et je dois dire que là, c'est grandiose pour moi et pour l'organisation et pour tout notre comité directeur d'organisation, parce que c'est hyper important. Tout le monde a été soudé pour avancer vers le top.
Le handisport, ça vous connaît. Est-ce qu'on vous impressionne encore malgré tout? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des personnalités du sport? Alors, évidemment, c'est peut-être compliqué pour vous de citer l'un par rapport à l'autre. On sait que vous ne les citerez pas tous, mais non. Est-ce qu'il y a un athlète qui vous impressionne particulièrement, ou peut-être même des amateurs qui font du handisport et dans certaines disciplines qui vous impressionnent particulièrement?
Alors vous savez, moi, je suis très très heureux quand il y a des médailles d'or qui nous tombent des Jeux paralympiques, des Championnats du monde et ainsi de suite. Mais j'ai d'autant plus de bonheur quand je vois un jeune qui a un handicap et qu'on réussisse, nous, la Fédération française du sport, à lui faire pratiquer une activité physique et sportive. C'est un jeune qui est myopathe, qui donc a des problèmes de soufflerie et de respiration, de souffler, et le faire souffler dans une sabacane, et qui est heureux après avoir réussi d'avoir marqué un 5, un 6, un 7 ou un 10, dire que moi, mon plaisir, il est aussi ça. Donc, je ne citerai personne. Je suis très heureux des 37 000 licenciés que nous avons à la Fédération française d'handisport. Et nous, notre job à la Fédération, c'est justement d'amener au plus grand nombre à la pratique de l'activité physique et sportive. Et le haut niveau, bien sûr, le haut niveau, lui, il va nous ramener des médailles d'or, d'argent et de bronze, voire d'or de Rio. Mais ce qui me permet de dire que par rapport à eux, c'est que eux, c'est la vitrine de la maison handisport. Eux vont, à travers les médias que vous représentez, on aura de belles sonneries qui vont aller au fin fond de la France, de la métropole.
Eh bien, merci Jean-Paul Moreau d'être venu nous voir.
Voilà.
Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération française d'handisport.
Et bientôt président, évidemment. Hein.
Voilà.
Évidemment,
on
évidemment.
Ça.
C'est
sûr.
Ça fait toujours plaisir, monsieur Moreau. Hein. C'est sympathique. Hein.
Ah, absolument.
Entre Moreau, vous comprenez.
On se comprend.
Absolument.
Bon, et alors Théophile Mercier nous a rejoint en studio pour nous faire un petit point justement sur les derniers résultats.
Théophile, alors comment ça se passe?
Ça se passe pas trop mal, notamment pour nos Français. Donc, 3 résultats du 400 mètres debout.
Hein, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du fauteuil, mais cette fois, c'est les 80 mètres debout. Avec, pour commencer, chez les femmes, Natania Keita, qui gagne en 57-97, devant Mendy François-Eli. Chez les hommes, pour vous dire que Timothée Adolphe a largement gagné son 400 mètres en 51-23. Il est d'ores et déjà qualifié pour Rio l'été prochain. La deuxième finale du 400 mètres, c'est remporté par Mathieu Plazy. Autre info importante, Jean-Baptiste Alaise, oui, effectivement, à la longueur, et effectivement, qui sera d'ores et déjà qualifié pour Rio. Le concours n'est pas fini, mais on peut déjà vous annoncer qu'il a déjà réalisé les minima. Voilà.
Parfait. Très bien. Vous suivez tout ça. On en parlera probablement demain, hein, parce que bientôt on va se quitter. Enfin, tout à fait encore, mais je suis pas sûr que vous reviendrez pour d'autres résultats. Mais demain, sur l'antenne de Vivre FM, on continuera et on terminera de parler de ces résultats, toujours qui concernent ces championnats de France Open d'athlétisme handisport. Une pause musicale, Marion, par exemple.
Par exemple. Hein,
pause musicale avant de retrouver nos derniers invités sur Vivre FM.
En direct du stade Charletti, de 11h à 16h. Vivre FM se met au sport.
Nous suivons avec vous et pour vous les championnats de France Open d'athlétisme handisport organisés par la Fédération française handisport. Et les invités se succèdent à une vitesse effrayante, presque, sur l'antenne de Vivre FM, Marion.
C'est effrayant, je le dis.
Vous êtes effrayé par la vitesse, je le sais.
Mais non, on est content qu'ils viennent nous voir. Et d'ailleurs, quelqu'un vient de nous rejoindre.
Julien Allard.
Julien Allard, voilà, bonjour.
Bonjour Julien.
Donc vous travaillez pour la société Axéo, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'a fait cette société?
Alors Axéo est une société qui met en place des plateformes de traduction pour sourds et malentendants, que ce soit en LSF ou en TIP. Et la petite nouveauté actuelle est surtout l'application Axéo qui est disponible sur iPhone et Google Phone.
Dites-nous ce que c'est TIP pour...
TIP, transcription instantanée de la parole. La stéléotypie en fait c'est traduire une conversation en sous-titrage en instantané.
Ah ouais, il faut le faire, oui.
Oui, il faut être rapide.
Ah, c'est étonnant, oui, absolument.
Et donc, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de sport. Est-ce que vous avez un rôle aussi, par exemple, de traduction et d'interprétariat dans les compétitions sportives?
Alors, dans les compétitions sportives, pas forcément, mais on accompagne la FFH. On accessible le site et
la Fédération française d'handisport.
Tout à fait. Et on accompagne la FFH depuis maintenant plusieurs années.
Mais vous ne travaillez pas que pour la Fédération française d'handisport?
Non, du tout. Le but, en fait, est de rendre accessible un maximum d'administrations et de commerces. Donc on est déployé sur la France. Déjà on a à peu près 22 000 commerces et administrations qui sont accessibles. Et notre but est de déployer au maximum ces solutions pour que les sourds et malentendants puissent vivre en autonomie comme nous tous.
Et alors quel type de solutions vous pouvez déployer pour rendre par exemple les commerces accessibles dans la vie de tous les jours pour des personnes sourdes et malentendantes?
Il suffit d'équiper son commerce d'une webcam et d'un micro, de souscrire à l'abonnement Axéo, qui vous permet de pouvoir entrer en contact avec des personnes sourdes et malentendantes sans aucune limitation de temps. Donc en fait c'est un abonnement pas limité dans le temps, qui permettent à chacun de pouvoir être traduit en direct.
Donc ce n'est pas complètement inaccessible, parce qu'on pourrait penser justement comme c'est de la haute technologie, hein, ça coûte forcément très cher.
Pas du tout. Pour vous donner un exemple, on est accessible aussi toutes les agences immobilières Orpi, par exemple, et l'abonnement ne coûte que 95 euros par an.
Effectivement, Et de plus, est-ce que vous savez si les commerçants qui font appel à vous ou à des sociétés comme la vôtre, mais parlons plutôt de la vôtre, hein, puisque vous êtes là pour nous en parler aussi un petit peu, Axéo, est-ce que vous savez si ces commerçants peuvent être aidés justement, parce que c'est malgré tout un surcoût, même s'il ne s'agit que de 95 euros par an, c'est tout de même un surcoût.
Jusqu'à présent, il n'y a pas forcément d'aide dans ce cas, c'est plutôt le but étant, nous, à l'origine, cette application a été créée avec de très grosses entreprises partenaires qui nous permettent de déployer un maximum cette application. Le but aujourd'hui est d'étendre au maximum sur le territoire l'application pour qu'elle soit le maximum utilisée et qu'elle puisse être ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas à présent.
Et alors, au plan justement de la Fédération Handisport, parce qu'on voit l'accompagnement que vous pouvez procurer à des services,
oui.
Quel est l'accompagnement que vous avez?
Pour le moment, c'est une accessibilité téléphonique. Quand vous allez sur n'importe quel site internet, par exemple, vous avez un logo oreille barrée qui signifie que le site est accessible aux personnes sourdes et malentendantes, ce qui permet de pouvoir appeler les services du site internet, que ce soit la Fédération Française d'Handisport, que ce soit n'importe quel commerce, et en cliquant sur ce lien-là, vous pouvez rentrer en contact directement avec le service téléphonique du site concerné. Et vous connecter directement sur nos plateformes, qui permet de faire une traduction directe, que ce soit en fonction du thème, en langue des signes ou en TIP.
Mais ça veut dire que le marché est encore énorme. J'imagine que toutes les administrations en France ne sont pas pourvues de tel système, par exemple.
Non, quelques-unes jusqu'à présent, mais on en attend encore beaucoup. Donc beaucoup de partenaires à venir.
beaucoup de partenaires à venir et qui feront peut-être ces partenaires que finalement l'abonnement sera rendu moins cher et puis aussi peut-être plus performant, vous le disiez, parce que ça veut dire aussi que ça n'est pas, comme vous le disiez, ça n'est pas ouvert 24 heures sur 24.
Non, tout à fait. Pour l'instant, notre service est ouvert de 9h30 à 13h30 et de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Et le but étant que plus il va être utilisé, plus on pourra, je dirais, former nous de personnes sur nos plateformes et être ouvert le plus longtemps possible.
Mais comment ça fonctionne précisément? Parce que si vous dites que ça n'est pas ouvert tout le temps, ça veut dire qu'il faut des moyens humains derrière. Seule la technologie n'est pas présente.
Non, c'est aucune technologie, c'est vraiment l'humain qui est formé.
Ah, c'est plus l'humain.
Vous avez des interprètes en langue des signes qui travaillent sur nos plateformes. L'interprète en langue des signes existe depuis très longtemps. Mais par contre, nous, on forme nous-mêmes nos transcripteurs en santé de la parole. Donc, c'est notre TIP. On a des écoles de formation dans le Jura et sur Lyon, avec des écoles de formation. Et les gens sont formés à arriver à un certain niveau de mots à la minute, parce que pour faire de la transcription de la parole, il faut pouvoir taper entre 200 et 210 mots minute, en fonction du débit de la personne.
Pour avoir des mots, quoi.
Ah, exactement. Et quelqu'un qui parle avec un débit comme le mien, forcément, il va falloir attraper plus vite la conversation.
Merci Julien Allard d'être venu nous voir. Julien. Si les gens veulent trouver des informations sur Axéo.
Vous pouvez trouver sur Axéo, acce-o.fr. Vous avez toutes les informations sur le site.
Merci à vous. Et donc, on a merci Renaud Julien. Good qui vient de
Renaud.
Nous rejoindre.
Bonjour à tous. Bonjour. Évidemment, on voit tout le personnel, tout le staff de.
Voilà.
À chacun
on
son sport.
Hein.
In extremis pour moi, mais bon, je suis là.
Ah oui, bravo.
Alors, du coup, vous êtes venu nous faire un petit débrief de la journée.
Oui, on va pas rentrer dans le détail, mais déjà, c'est une belle fête qui prend date. Chaque année, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de jeunes. Et puis au niveau des performances, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas tout regardé dans le détail, mais il y a déjà un record du monde qui est tombé. Je pense que vous l'avez suivi durant toute la journée. Un record du monde sur 100 mètres avec la Britannique Cox. Donc ça marquera le côté sportif. Plusieurs minima aussi qui sont tombés, je pense, pour les Jeux paralympiques. Et puis c'est la fête de l'athlétisme et la fête de la découverte du handisport, de la solidarité. Il y a plein de jeunes qui peuvent venir s'initier, il y a de la promotion aussi pour les Gay Games en 2017. Ça fait partie aussi de la grande solidarité du sport.
Donc c'est la fête en général.
C'est la fête en général et puis il faut signaler aussi à midi il y a eu la remise des récompenses pour le challenge des jeunes. Voilà un challenge qui a lieu en province avec les meilleurs éléments qui se rencontrent à Charletti. Donc c'est ça aussi l'athlé handisport, c'est pas que le haut niveau. C'est un petit peu à l'image de ce qu'est le handisport en France.
Alors d'ores et déjà, on se projette, même si vous n'êtes pas organisateur de cette manifestation, d'ores et déjà, j'imagine qu'on se projette pour l'année prochaine.
Ben, de toute façon, la volonté de la fédération, c'est de pérenniser cet événement pour que ça soit plus tard un grand prix IPC, c'est-à-dire un des plus gros meetings international, comme il peut y en avoir à Berlin, à Londres, à Dubaï. Ça en prend la voie puisque maintenant c'est un rendez-vous incontournable de l'athlé français puis de l'athlé international.
Et puis alors on rappelle que côté championnat de France Open, on rappelle que ces épreuves comptent d'ores et déjà pour les qualifications aux Jeux paralympiques de Rio.
Voilà, d'ailleurs pour les Français, les championnats de France étaient un passage obligé pour postuler à une qualification paralympique. La liste des sélectionnés interviendra dans le courant du mois de juillet d'ailleurs.
Alors pour l'instant de ce que vous savez des épreuves, il n'y a pas de grande surprise, au contraire il y a des talents qui émergent et d'autres malgré tout qui
il y a des talents réviser, qui émergent ouais. Il y a Maricius Dubois au lancer qui est un petit peu une nouvelle venue. Et puis bon, il y a une petite inquiétude, Mandy François-Ely qui s'est fait sortir du 100 mètres
disqualifié. Sur le 400, c'était pas terrible non plus.
Bon, alors donc on va voir ce que ça donne. Je crois qu'elle avait sa place sur 400 sur les championnats par rapport aux championnats du monde. C'est sur 100 mètres que ça sera un petit peu plus délicat, mais bon, voilà, c'est la loi du sport.
Absolument. Valentin Maillot nous a rejoint, c'est ça?
Non, pas du tout. Pas
non,
du
il
tout.
N'est pas là.
Bon, pas moi.
Son esprit est avec
nous. Tant mieux. Vous aviez des choses à dire, Valentin?
Ah non, je réagissais à ce que disait Renaud. J'écoutais religieusement la Bible du sport.
Alors, d'après ce que j'ai compris, on est bientôt au terme de cette manifestation.
Exactement, il va être 16h bientôt.
Concert, on remercie toute l'équipe technique, Fred Kirstein également, Valentin Maillot, Dominique Lemaître, Jason Durand est à Paris et Marion Guichaoua.
Et puis on remercie Benjamin Moreau aussi,
évidemment.
Absolument.
Et pour parler de sport, on se retrouve samedi à 9h dans
À chacun son sport.
Exactement. Et on fera Timothée Adolphe.
Avec la charmante Cécile Hernandez.
Voilà. Qui va nous revenir. Le champion Timothée Adolphe.
Très bien. Eh ben, merci à vous tous. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Et puis nous, évidemment,
on sera au rendez-vous, évidemment.
On continue d'écouter Vivre FM, bien sûr.
Vivre FM, podcast.